Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Dans cette troisième émission sur les francophiles américains, je continue à présenter un certain nombre de personnages et je donne un certain nombre de faits très intéressants pour tous ceux qui veulent en savoir plus long sur le français dans les Amériques. Tous ces enseignants, les enseignants dont j'ai parlé dans les deux premières émissions, ceux du second degré comme ceux du supérieur, sont quand même très nombreux. Au moins 10 000 à être rassemblés dans une association qui s'appelle le American Association of Teachers of French, donc l'association américaine des professeurs de français, dont la dernière rencontre s'est tenue en octobre 2004 à Atlanta, qui était extrêmement intéressante et stimulante puisqu'il y avait environ 1300 professeurs rassemblés à Atlanta et au moins 75 communications ont été présentées sur une thématique planétaire et bien entendu en évoquant les Antilles, l'Afrique, le Québec, etc. Alors, on ne peut pas parler des francophiles américains sans oublier de citer le réseau des alliances françaises aux États-Unis, qui est aussi très dynamique et qui compte aujourd'hui 130 implantations, 30 000 adhérents et au moins 16 000 élèves, il va sans dire. Une dizaine de ces implantations constituent de véritables centres culturels avec écoles de langue, médiathèques, ciné-clubs hebdomadaires, conférences. Et par exemple, vous avez une très bonne médiathèque à Chicago, par exemple. À la tête de cet ensemble des alliances françaises, une dame, une grande dame, qui est Jane Robert, venue en France pour la première fois à l'âge de 19 ans. Et cette dame a un dynamisme formidable. Et depuis qu'elle est présidente, c'est-à-dire, je crois, depuis 1999, les alliances françaises évoluent avec, évidemment, ses équipes, évoluent de façon tout à fait intéressante, car il ne faut pas le masquer. À la fin des années 90, il y avait un certain nombre de faiblesses pour le français en Amérique du Nord, mais depuis, beaucoup de ces faiblesses se sont transformées en, évidemment, nouvel élan, nouveau dynamisme, il va sans dire. Alors, dans ces alliances françaises, vous avez de très nombreuses activités, les initiatives sont diverses, les idées foisonnent, et notamment Bastille Day, le Beaujolais Nouveau, ça c'est vraiment quelque chose de très important, exposition de peinture, accueil de personnalités célèbres, il va sans dire. Alors, couronnant l'ensemble, les consulats et l'ambassade à Washington jouent un rôle fondamental, et je pense notamment à l'ambassadeur actuel, M. David Levitt, qui a été tout à fait remarquable dans le traitement de la crise entre la France et les États-Unis à la suite notamment de la guerre d'Irak. Donc David Levitt a eu des initiatives très appréciées, notamment celui d'avoir l'idée de décorer une centaine de vétérans américains, héros évidemment de la Seconde Guerre mondiale, et ça a été très apprécié par nos amis américains qui sont très nombreux. Alors, bien entendu, vous avez cette francophilie, on la retrouve un peu partout, notamment bien sûr en Louisiane, il faudrait en parler dans une émission particulière, jusqu'en Pennsylvanie, notamment le souvenir de Jacques Kerouac. Il faut ne pas oublier cet auteur d'origine québécoise qui évidemment était anglicisé mais a écrit des livres extrêmement intéressants, et notamment qui s'appelle « Sur la route » chez Gallimard en 1960 et la traduction anglaise étant « On the road ». Alors, n'oublions pas le Mississippi formidable, les grandes plantations du 19e et notamment une plantation comme Montaigne, qui porte le nom de Montaigne, ça n'a rien à voir avec l'écrivain, mais Montaigne a été fondée par le descendant d'un huguenot français. N'oublions pas non plus Natchez, nom mythique, je pense, cher à Chateaubriand, qui en 1716 devint une colonie française. Arrivé plus tard, si nous continuons dans cette direction, l'État du Missouri et la fameuse ville de Sainte-Geneviève, forte aujourd'hui de 400 000 habitants, et qui est Sainte-Geneviève, qui a conservé un cachet français. Et ne l'oublions pas, cette ville, cette ville est véritablement une architecture française. Et donc, on retrouve dans les grandes plaines, dans les immenses plaines américaines, une petite ville de la France profonde. Et nous avons ensuite, d'ailleurs, un document existe sur cette ville extrêmement intéressante, écrit par un monsieur qui s'appelle Grégory Francha, et en anglais, le titre, le livre n'existe qu'en anglais, The Story of Old Sainte-Geneviève, an account of an whole French town in Upper Louisiana, its people and their homes. Je pense que vous avez compris, la traduction, c'est l'histoire de la vieille ville de Sainte-Geneviève, l'histoire de cette vieille ville dans la Louisiane, la haute Louisiane, si j'ose dire, l'histoire de son peuple et de ses maisons, etc. Et ça a été publié à Tucson, The Patrice Press, 6e édition. Donc regardez comme ça intéresse les gens. La première édition date de 1967 et la 6e édition date de 1998, etc. Donc c'est tout à fait remarquable. En plein cœur du Kansas, pour certains étudiants dans les années 60, choisir d'apprendre le français, vous l'imaginez, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est un acte d'indépendance et nous trouvons de nombreux personnages qui adorent le français. Je pense à un personnage qui est aussi cité dans le livre de Philippe Joutard, dont je m'inspire, vous l'avez compris. Alan Pascoe, devenu professeur de français, lui s'intéresse à Proust, aux existentialistes, aux nouveaux romans. Rien de moins. Et de même, Proust retient l'attention de Daniela Teodorescu, qui a grandi en Roumanie, puis a suivi ses parents au Texas. Et un Proust inattendu, traité par cette dame, car elle remarque que les rayons, ça c'est quand même très intéressant, que les rayons X découverts par Wilhelm Röntgen en 1895 font leur première apparition dans les romans de l'auteur, donc de Proust, à propos des vertèbres sur le front de Tante Léonie. Pour l'enseignante, les vertèbres, je cite l'enseignante, les vertèbres seraient en réalité un artefact révélateur d'un monde perdu. Donc vous voyez, c'est quand même tout à fait fascinant et nous retrouvons ça aux États-Unis. Donc les francophiles américains ne sont pas des petits francophiles, ce sont des gens doctes. Un autre enseignant, Brian Flanagan, lui avoue aimer et admirer le cinéma français. Alors il aime la façon dont les Français traitent le cinéma, il faut dire à la façon le cinéma d'auteur. Pensons à Clouzot, Melville, pensons à Godard, à bout de souffle de Godard, et pensons à un personnage qui est adulé dans une bonne partie de l'Amérique du Nord, et c'est le personnage du réalisateur qui s'appelle Jean Renoir, notamment avec des œuvres magnifiques comme La Grande Illusion, comme La Règle du Jeu, comme French Cancan, et donc on comprend que ces films intéressent énormément les francophiles américains, etc. etc. Alors, n'oublions pas ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que Henri-Georges Clouzot, auteur entre autres des Diaboliques, a précédé avec ses films noirs, ses films d'horreur, a précédé les films d'Hitchcock. Donc, vous voyez, comme c'est des choses que l'on ignore, etc., mais qui sont tout à fait importantes, etc. Alors, il va sans dire que les parents américains incitent, bien évidemment, leurs enfants à apprendre le français parce que c'est une langue qui fait la différence, il va sans dire. Alors, le français, et on l'a compris, ce qu'on n'avait pas peut-être compris avant l'an 2000, où il y avait une crise véritablement, après l'an 2000, on s'aperçoit que le français, de plus en plus, vient ou revient dans le monde des affaires. La France a de très nombreuses entreprises fort performantes, de L'Oréal à Airbus, au TGV, à bien d'autres choses, etc. etc. Donc, le français intéresse de plus en plus en Afrique. Connaître le français est un plus, même pour les Chinois. Et puis, dans ce Kansas si lointain de France, un tour dans la bibliothèque de l'université permet de constater que plusieurs ouvrages imprimés au XVIe siècle s'y trouvent. Donc, vous voyez, l'Amérique profonde, même dans l'Amérique profonde, vous retrouvez la première édition, celle de 1596 de Clément Marot, et qui s'appelle « Adolescence clémentine ». D'autres ouvrages s'y trouvent dans cette superbe bibliothèque, de Dubelay, la première édition de 1549, de Défense et illustration de la langue française, autant quelque chose qui attire la ferveur de tous les amoureux du français. Rabelais, bien sûr, Guillaume du Bartas, Geoffroy Thory, un petit peu moins connu, tous en édition originale. Donc c'est tout à fait remarquable. Au Kansas, il faut reconnaître comment est née cette bibliothèque ou s'est développée cette bibliothèque du français, mais grâce à un personnage excentrique, comme il en existe beaucoup, surtout en Amérique, qui s'appelle Ralph Ellis. Et ce fils unique d'une famille très riche a un jour légué sa collection, en 1945 à sa mort, une collection formidable, celle que je viens de nommer, et notamment depuis, cette collection s'est agrandie et diversifiée avec un fonds remarquable sur la Renaissance française et des douzaines de mazarinades, des pamphlets protestants et catholiques liés à la politique, mais aussi sur la Renaissance espagnole, anglaise et allemande. Donc on le voit, au Kansas, au cœur de l'Amérique profonde, eh bien, des étudiants de pointe peuvent aller faire leurs recherches, etc. Et c'est tout à fait magnifique. Et on trouve cela dans souvent de très belles bibliothèques dans, je dirais, au moins une quinzaine d'États américains, si ce n'est pas plus, il va sans dire. Alors, cette bibliothèque a été aussi enrichie par un autre legs, je parle toujours de la bibliothèque du Kansas, celui d'un passionné du Midwest, Thomas Jefferson Fitzpatrick. Et donc, c'est ce monsieur qui a aussi offert un certain nombre de livres, il va sans dire. J'ajouterai à cela que beaucoup d'auteurs français sont étudiés aux États-Unis. Je pense notamment à René Char, au Kansas. Pas seulement, il a été au Québec de mémoire, je cite évidemment toute la revue Liberté, tous ceux qui gravitaient autour, comme Jean-Guy Pilon, des poètes connus, comme Gaston Miron, bien entendu. Et René Char est étudié au Kansas, mais aussi en Californie, en Pennsylvanie, à Princeton, avec notamment un professeur qui s'appelle Sandra Berman. Donc, nous pouvons continuer ce tour américain, ce suivre Jack Kerouac avec sur la route, évidemment, et passer du Missouri à l'Illinois. L'Illinois, extrêmement important pour le fait français, ne l'oublions pas. L'Indiana et l'Ohio, il va sans dire. Mais il faut rendre un hommage complet aux Français qui, dans cette partie de l'Amérique, étaient si peu nombreux, ont tant bâti et ont tant nommé. N'oublions pas qu'en 1763, il n'y avait seulement que 65 000 Français dans cet ensemble de l'Amérique du Nord, etc. Alors, tandis que les anglophones qui étaient, eux, massés le long des côtes, étaient dépassés, bien entendu, les 500 000 personnes, etc. Mais eux ne s'aventuraient, ou s'aventuraient beaucoup moins, dans les terres, parce qu'évidemment, les Français étaient là, alliés avec les Indiens. Ça, voilà ce que je voulais dire. Alors, il va sans dire aussi, si nous continuons, eh bien, c'est très intéressant. Je ne vais pas m'étendre, mais le signal est juste. Si nous continuons un peu ce voyage à travers le Midwest, eh bien, vous apercevez que beaucoup de noms sont en français. Certaines municipalités reconnaissent, certaines municipalités américaines reconnaissent les origines françaises, d'autres pas. Alors, on peut lire Louisville, par exemple, Indiana, la ville de Lafayette, la rivière, ou bien la ville de Terre Haute, qui domine la rivière Wabash. Et c'était à l'époque, cette ville de Terre-Haute, des marchands de fourrures français qui ont pensé que ce nom lui convenait bien. Je pense aussi à Vincennes au sud-ouest, ce n'est pas à Paris, rassurez-vous, Vincennes au sud-ouest de l'Indiana affirme aussi son origine française, liée dès le XVIIIe siècle au commerce des peaux. On pourrait multiplier les exemples, tant cette terre de l'Illinois fut, par bien des aspects, une terre de France. Les Français l'ont exploré les premiers, je le disais tout à l'heure, de 1673 à 1763, année où l'État fut cédé à la Grande-Bretagne. Alors, encore quelques mots, parce que je pourrais être intarissable sur cette période valeureuse. Encore un mot, et ça sera ma conclusion, par New York, qui reste quand même une ville française, bien entendu, importante. Mais peu d'émigrants français se sont installés aux États-Unis par rapport à d'autres populations. Nous, je n'ai plus les chiffres exacts là, mais que de 1810 ou 20 à 1980, nous n'avons certainement pas eu beaucoup plus de 500 000 Français qui sont allés aux États-Unis, alors que les Italiens, les Grecs ou d'autres nationalités, ils sont allés par millions, etc. Mais je donnerai, le moment venu, des chiffres plus précis. Mais n'oublions pas, juste quelques mots. À New York, eh bien, n'empêche que si New York n'a il n'y a pas une présence française énorme par rapport à d'autres populations. N'oublions pas quand même que l'entrée sur New York se fait en regardant, par la mer j'entends, se fait en regardant la Statue de la Liberté, don évidemment de la France, et quel don. Ensuite, n'oublions pas que Saint-Exupéry, apprécié dans le monde entier, a écrit à New York Le Petit Prince. Et bien sûr, sa femme recevait dans son appartement Maeterlinck, Breton, Duchamp, Étanguy, etc. Donc, n'oublions pas aussi les chanteurs que le groupe américain qui se produit souvent à New York, qui s'appelle les Sans-Culottes. c'est le seul groupe américain à chanter en français dans l'ensemble des États-Unis, alors que l'Europe, souvent en Europe, on ne veut que chanter en anglais. Donc vous voyez, c'est assez intéressant de le savoir. N'oublions pas, enfin, une chanteuse qui s'appelle Patti Smith, et cette chanteuse adore réciter des poèmes de Rimbaud. Alors, je terminerai parce que, évidemment, il y a tellement d'autres choses à dire, mais je terminerai par un élément important, c'est la réalité de la Hudson Review, revue très importante qui s'intéresse énormément aux classiques français, Dubelet, Boileau, Molière, La Fontaine, Victor Hugo et aux modernes comme Yves Bonnefoy et Philippe Jacotet. Je pense aussi que Marcel Proust est aussi à l'honneur. Les librairies, évidemment, présentent beaucoup d'expositions de livres français. Et surtout, dans tous les musées new-yorkais, vous trouvez des œuvres françaises, de la peinture française, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Notamment, sans oublier, la force de l'impressionnisme qui a bouleversé l'Amérique, évidemment, qui continue à bouleverser ceux qui aiment l'art et qui aiment la peinture. Je vous remercie et je vous signale que vous pouvez retrouver ces trois émissions sur les francophiles américains dans notre médiathèque et bien entendu, vous pouvez les télécharger de façon gratuite. Merci.